l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. 12 heures passées d'une minute après ce moment de recueillement et de prière avec l'Angélus. Eh bien, c'est l'heure de se retrouver pour ce présent ce midi au sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, nous serons avec Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch. C'est Anne-Rose Jankovic qui s'entretiendra avec lui. On parlera des nouvelles de l'actualité de ce beau diocèse. Et puis dans le Gers, on va y rester, puisque dans Pauline Cazier, cette semaine, a fait un reportage sur la quatrième édition du Salon à la ferme. C'est une opération qui a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en ouvrant tout simplement les portes des fermes. La thématique nationale de cette quatrième édition est la souveraineté alimentaire. Et dans le Gers, le Salon à la ferme se déroulera jusqu'au 7 mars dans 6 fermes. On écoutera Sylvie Collas, c'est la porte-parole de la Confédération paysanne du Gers, qui donc sera, je vous l'ai dit, au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers. Et puis un jour, un livre, un auteur, c'est Diego Arrabal aujourd'hui qui va travailler. Et quand c'est Diego Arrabal, on parle beaucoup de films, de romans, pardon, policiers, de trailers, de polars. Et bien aujourd'hui, ça sera le Serge Nicolo pour le Boléro Tragique. Allez, tout de suite à l'actualité avec Lou Denville. Bonjour Lou.
Moins d'un mois après la coupure de la RN20, un nouvel éboulement bloque le réseau routier ariégeois. La route départementale RD618 est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Lacour et Kerkabanac. Des déviations ont été mises en place, les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter les conditions de circulation actualisées sur le site inforoute09.fr. Le chantier de la ligne C du métro se poursuit. Tisséo Ingénierie a annoncé ce lundi 16 février que plus de 60% des tunnels et viaducs sont réalisés. Le chantier bascule désormais dans le second œuvre. Les quatre stations aériennes ainsi que Bonnefoy et Lormeau sont déjà en phase d'aménagement. Sous terre, quatre tunneliers poursuivent leur progression. Argelès-Gazost, la nouvelle maison du souffle, mise sur une approche pluridisciplinaire pour prévenir les pathologies respiratoires. Ouverte en novembre dernier, cet établissement est né de l'initiative du docteur Aimé Haddad, pneumologue récemment retraité. Installée tout près du parc thermal, la maison du souffle propose une approche préventive des problèmes respiratoires avec quatre intervenants, un maître nageur, une chanteuse, un praticien en hypnose et une professeure de yoga. Ce 18 février, jour du mercredi des cendres, nous entrons dans le temps du carême. Un temps de conversion intérieure où le chrétien, pendant 40 jours, par la pratique du jeûne et de la prière et de l'aumône, est appelé à revenir vers Dieu et à sourire aux autres. Dès 19h, vous pourrez retrouver sur les antennes de Radio Présence la messe présidée par l'abbé Antoine Lavial, curé de la paroisse étudiante de Toulouse, en direct de la basilique Notre-Dame de la Dorade.
Merci beaucoup, c'est un rendez-vous qu'on a noté sur nos agendas ce soir à partir de 19h. Allez, on part tout de suite pour le Gers. On va retrouver Monseigneur Lacombe qui est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
On est très heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Présence ici à Lourdes pour nous donner des nouvelles de votre diocèse, vous qui êtes archevêque d'Auch. Et en ce mercredi des cendres, évidemment, le premier sujet que nous allons aborder, c'est cette entrée dans le temps de carême, avec plusieurs informations de votre diocèse qui sont liées à cette entrée dans le temps de carême, et notamment la publication d'un petit calendrier qui va accompagner vos diocésains pendant toute cette ce temps liturgique.
Oui, c'est un petit calendrier, mais que les fidèles du Gers attendent avec par jour une invitation à un geste concret pour vivre ce temps du carême. Et nous l'avons intitulé cette année 40 efforts joyeux de carême. Donc on veut mettre l'insistance sur la joie.
La joie est de mise pendant le temps du carême.
Ben bien sûr, hein, c'est nous disposer pour cette joie. Alors voyez par exemple mercredi des cendres, méditer un verset biblique. C'est vrai que c'est de circonstance, nous allons méditer la parole de Dieu, mais là on peut s'attacher particulièrement à un verset. Demain ça sera s'émerveiller d'un repas partagé, le jeudi ça nous rappelle le jeudi saint. Bon, je ne vais pas passer chaque jour.
Non, au fond ce sont quand même des petites choses assez concrètes et pas très difficiles, mais qui nous permettent d'ancrer de manière très concrète le carême dans notre quotidien.
Voilà, et puis on le fait en communion du coup avec l'ensemble des fidèles du diocèse, donc c'est une joie communautaire.
Donc ce calendrier est distribué partout dans le diocèse du Gers.
Ah ben il est dans toutes les paroisses, dans les établissements catholiques, dans les communautés religieuses,
voilà.
Partout.
Et ben ça c'est source de communion. Alors ce dimanche, comme chaque premier dimanche de carême, partout, dans tous les diocèses, aura lieu l'appel décisif des catéchumènes. Parlez-nous des catéchumènes de votre diocèse cette année, Monseigneur Lacombe.
Alors ça commencera même samedi, parce que les catéchumènes, alors il y a des enfants catéchumènes, ça c'est important, mais on accompagne plus particulièrement et de manière plus diocésaine, parce que les déplacements sont plus faciles, les jeunes et les adultes. Donc on a un appel décisif pour les jeunes samedi à Auch, dans les locaux paroissiaux de la Boubée, et ça sera un bon temps pour la pastorale des jeunes. Et le lendemain, les catéchumènes adultes sont invités à se retrouver pour la messe à la cathédrale. Et l'appel décisif aura lieu l'après-midi à 15h30 pour que les curés, les prêtres puissent participer à ce moment de l'appel décisif, parce qu'on est tous très attachés à ces catéchumènes et puis aussi à tous ceux qui se préparent à un sacrement.
Oui.
Donc le baptême, bien sûr, mais il y a des fois c'est l'Eucharistie, d'autres fois c'est la confirmation. Mais pensons aussi au baptême, pensons aussi au mariage, aux parents qui préparent le baptême de leurs enfants. Voilà, on sent que c'est un événement important qui arrive, et voilà, on est heureux de pouvoir accompagner les catéchumènes et tous ceux qui se préparent à un sacrement.
L'an passé, nous avons beaucoup parlé dans l'Église de France de l'augmentation du nombre croissant des catéchumènes. C'est une tendance qui se poursuit, que vous ressentez en tous les cas. Il y a une effervescence, un engouement pour cet accueil des catéchumènes et pour l'arrivée tous les ans de nouveaux catéchumènes.
Oui, alors on n'a pas les chiffres qu'il y a dans les grandes villes, hein, mais on poursuit la mission avec les lettres des catéchumènes avec quelques catéchumènes qui ont un certain âge. Mais il y en a aussi des plus jeunes, et puis il y a vraiment des jeunes adultes aussi, et
oui.
Je suis heureux quand ils ont pris contact avec leur paroisse et quand ils se préparent dans le diocèse pour que la nuit de Pâques ils puissent recevoir le baptême et, le cas échéant, les autres sacrements d'initiation.
Il n'y a pas de profil type, c'est ça qui est à la fois étonnant et beau, c'est que finalement ces catéchumènes, ils ont des profils, des parcours vraiment très divers, c'est sans doute vrai chez vous aussi dans votre diocèse, mais ils arrivent par des voies qu'on n'avait pas forcément calculées ou prévues.
Oui, ça fait pas partie de nos plans pastoraux.
Oui, c'est étonnant.
Mais nous nous en réjouissons. Et ce qui est très beau dans ces lettres des catéchumènes, et je les en remercie, c'est que ça permet de refaire un peu, de reprendre un peu le fil blanc. Spirituel de leur vie. Et très souvent, il y a un événement qui est lié à la jeunesse, à l'enfance même parfois.
Ah oui.
Et puis, ça ressort dans ce moment de la jeunesse ou ça ressort un peu plus tard. Mais ces personnes ont été rattrapées par le Seigneur et nous nous en réjouissons. C'est aussi une préparation en équipe. Donc, pour les paroisses, c'est aussi très stimulant. Et voilà, ben nous présenterons tout cela, d'abord les personnes, mais aussi toutes ces démarches au Seigneur le samedi et le dimanche du premier dimanche de carême.
Pour en finir sur cette question des catéchumènes, quelle place voudriez-vous que les communautés qui sont déjà bien installées, bien rodées, fassent à ces catéchumènes? Quelquefois, c'est pas évident parce qu'on est dans des habitudes, avec des relations qui sont déjà bien ficelées et on a du mal à se laisser bousculer par ce que les catéchumènes nous amènent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos diocésains pour qu'ils laissent vraiment toute la place à ces catéchumènes?
Alors, je me réjouis déjà de tout ce qui fait, de tout ce qui se fait, des équipes d'accompagnement, mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait une accroche. Et c'est vrai que là, c'est pour nous tous, comment, quand on a été dans une préparation d'un sacrement, ce n'est pas la fin d'une période. On a fait baptiser notre enfant, bon maintenant c'est terminé, on reviendra pour le mariage. Mon enfant a fait sa première communion, ben c'est très bien, maintenant il peut s'arrêter. Il a fait sa profession de foi, il s'arrête. Il a fait sa confirmation, il s'arrête. J'ai fait mon baptême d'adulte, c'est bon, je passe à autre chose. Il y a toujours besoin d'un moment de pause, de réflexion, un moment spirituel. Mais comment permettre à ces néophytes, aux nouveaux baptisés, de pouvoir trouver une place dans la communauté chrétienne. Ça, je crois que c'est vraiment un appel qui est pour chacun de nous et un point d'attention particulier. On pourrait dire nouveau sacrement, attention fragile, non pas qu'il y ait des risques, mais ça demande une attention, une bienveillance particulière pour que la personne puisse continuer à prendre sa place dans la communauté chrétienne sans avoir toujours une équipe autour d'elle, mais qu'elle puisse voler de ses propres ailes et avoir envie de le faire, se sentir à sa place pour le faire.
Attention fragile, vous avez le sens de la formule, Monseigneur Lacombe. Le temps du carême, c'est aussi dans votre diocèse un temps pour différentes rencontres. Alors, il y en a pour les jeunes, il y a des recollections, il y a aussi un rendez-vous sur la transformation synodale de nos paroisses. On va essayer de balayer un petit peu tout ça. Commençons justement par cette proposition, ce rendez-vous transformation synodale de nos paroisses dans le diocèse du Gers. C'est le 7 mars.
Voilà, c'est la formation des EAP. On sait à peu près ce que sont les EAP, les équipes d'animation pastorale autour de chacun des 10 curés du diocèse. Et puis aussi les membres des fraternités missionnaires locales, c'est-à-dire les équipes qui, sur chacune des anciennes paroisses, sur un regroupement de petites paroisses, se retrouvent aussi, sans nécessairement la participation du curé, mais qui, en petite équipe, veillent à ce que leur paroisse soit au service des personnes qui sont autour d'elle.
Donc elle se retrouve pas forcément pour un temps de prière, c'est pour porter des affaires concrètes de la paroisse.
C'est pour porter la vie de la paroisse. Par exemple, sur Auch, sur la Lomagne, sur la Starac, qui fait le pont avec le diocèse de Tarbes, eh bien, il y a 4 anciennes paroisses. Donc, c'est vrai que c'est important que sur chacune de ces paroisses, il puisse y avoir aussi une équipe. Donc, nous les appelons les fraternités missionnaires locales. Donc, toutes ces personnes, avec les prêtres, les diacres, s'ils font partie de ces équipes, sont invités donc à se retrouver le 7 mars pour cette journée de formation qui sera animée par le père Jérôme Pinel, vicaire général du diocèse de Montauban. Donc, je crois que là, vraiment, c'est une bonne chose pour nous de nous retrouver, d'être formés et de continuer à discerner ensemble ce que le Seigneur veut pour nos équipes et de manière synodale parce que il y a les prêtres, comme je le disais, il y a les diacres qui sont présents dans les équipes et puis des laïcs très investis.
C'est un peu cette formation et cet accompagnement dans la durée, c'est un peu la condition pour que cette transformation des paroisses, cette transformation synodale des paroisses, qui passe souvent par une transformation très concrète, géographique, qu'elle soit digérée par les diocésains. C'est pas évident pour les communautés chrétiennes de vivre dans une paroisse qui change de taille.
Oui, c'est jamais facile, mais c'est notre condition de pouvoir nous adapter aux circonstances. Mais la formation, c'est toujours nécessaire. où qu'on soit, si on se farme pas, on stagne et donc on recule. Et c'est vraiment important qu'on puisse se retrouver pour se former et puis aussi rentrer dans cette culture commune des paroisses qui maintenant là depuis 4-5 ans ont trouvé à peu près leur rythme de croisière, équipe d'animation pastorale, fraternité missionnaire locale, c'est aussi l'invitation à des journées missionnaires comme nous aurons par exemple à Auch dans le courant du mois de mars, c'est l'invitation à des assemblées paroissiales aussi où les personnes peuvent se retrouver, ça a été aussi une manière de pousser en fait, d'être attractif pour certaines personnes à propos des ministères institués. Donc, voilà, tout ça, il faut se voir régulièrement pour en parler et pour se dire, ben, on avance ensemble.
Dans le même élan, il y aura le 17 mars une récollection pour les laïcs en mission ecclésiale. C'est un peu le même élan.
Oui, alors, ça va commencer les récollections avec les prêtres, puisque après l'appel décisif, nous nous retrouvons à Lourdes dimanche soir pour la retraite provinciale des prêtres, donc avec les prêtres de la province. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important de permettre aux prêtres de se retrouver en diocèse, ce que nous faisons la plupart du temps, mais là aussi d'élargir les horizons de temps en temps. Et donc là, il y aura des prêtres de l'ensemble de nos 8 diocèses de la province. Il y a plusieurs évêques aussi qui vont y participer. Moi, j'y participerai aussi.
C'est vraiment un temps de retraite, donc de ressourcement.
Voilà, un temps de retraite qui sera prêché par le père Michel Daubanne, bien connu.
Le recteur du sanctuaire de Lourdes.
Voilà, et puis moi, je serai présent aussi et disponible pour rencontrer les prêtres du diocèse pendant ce temps de rencontre. Donc, voilà, temps de retraite, temps de relecture, mais c'est pas réservé aux prêtres. Et donc, comme chaque année, nous aurons la récollection des laïcs en mission ecclésiale. Alors, eh bien, on ne peut pas prendre une semaine parce que la vie de famille est quand même importante, mais nous nous retrouverons à proximité de Lourdes, là encore, à Marciac. Le mardi 17 mars de 9h30 à 16h30 pour cette journée qui est vraiment pour les laïcs en mission ecclésiale, et je suis vraiment heureux qu'il puisse y avoir cette journée pour eux et qui sera prêchée par sœur Ruffine, qui est une sœur arrivée récemment à la Providence de Lectoure et voilà qui est déjà intervenue plusieurs fois et qui a une approche très très intéressante, très profonde, et nous profiterons aussi de ce beau lieu de Marciac, il y a un grand presbytère, il y a l'église Notre-Dame de l'Assomption qui est magnifique, et puis la chapelle Notre-Dame de la Croix pas très loin, donc nous serons abrités, mais si le soleil revient, ben comme aujourd'hui par exemple, mais voilà, ce sera une occasion aussi de prendre l'air, de nous aérer dans le souffle de l'esprit.
Voilà, alors on voit que ce temps du carême va être vraiment propice au temps de retraite, de récollection, de formation dans votre diocèse, et aussi, ne les oublions pas, pour les jeunes, puisqu'il y a plusieurs propositions pour les jeunes qui sont faites. Alors, c'est aussi parce que ce sont les vacances scolaires qui démarrent, mais il y a pas mal de propositions pour les jeunes, et là, on peut tirer le coup de chapeau à la pastorale des jeunes de votre diocèse,
oui,
qui propose toujours pas mal de choses.
Bah oui.
Les jeunes ne sont pas en reste dans le diocèse du Gers.
Bah non, c'est sûr. Et bon, les autres non plus.
Les autres non plus.
Je pense aux catévacances pour les enfants ou d'autres initiatives. Mais avant de nous retrouver à Lourdes pour le rassemblement des 4e, 3e à Quéro, qui sera pour les vacances de printemps, là, pour ces vacances de février, eh bien, il y a une proposition pour les lycéens à Thésée, qui est une proposition avec la province, donc c'est aussi, voilà, on n'y va pas tout seul, on va retrouver d'autres jeunes de la province qui sont là, et je suis heureux qu'il y ait plusieurs Gersois qui y participent. Et puis, pour ceux qui préfèrent rester à Auch, ou qui peuvent pas se déplacer aussi loin, ou qui sont dans d'autres tranches d'âge, deux initiatives intéressantes à Boulor, avec des camps théâtres pour des garçons du 24 au 26 février, pour les filles du 26 février au 1er mars. Et donc, c'est important de développer les talents des jeunes avec des personnes qui sont formées. Et donc, ça sera vraiment un beau moment qui sera vécu. Et puis, début mars, on se retrouvera avec les étudiants ici à Lourdes pour le pour le pèlerinage maintenant connu, pèlerinage des étudiants, Exode. Donc voilà ces initiatives qui sont nombreuses. On peut souligner, c'est pas chez nous, mais fin février, début mars, les 36e journées paysannes, qui sont à Paray-le-Monial, c'est loin, mais il peut y avoir des personnes qui y vont, et c'est toujours une manière de souligner notre proximité, notre intérêt, prière pour nos amis agriculteurs qui nous sont très chers.
Et voilà, et ça fait écho, et on en a parlé souvent, en sortie sur des terres d'espérance, donc que vous avez mené dans votre diocèse. Évidemment, on n'oublie pas le monde agricole. On termine cet entretien, Monseigneur Bertrand Lacombe, avec, vous l'avez évoqué un petit peu, mais le rendez-vous qui aura lieu du 7 au 11 avril à Lourdes. Vous venez souvent à Lourdes, hein, quand même, on est toujours ravis.
Ben oui, ben bien sûr. Ben, nous sommes voisins, nous cultivons ces relations de voisinage habituellement. Alors c'est une journée de pèlerinage, ça sera la troisième, c'est pas la troisième fois qu'on vient à Lourdes, mais c'est la troisième fois qu'on vient en famille à Lourdes.
Ah oui, en famille.
Donc un pèlerinage pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, pour les parents, pour les aînés. Et on se retrouve plusieurs centaines, on fait le trajet dans la journée, ça se fait très bien, et avec une insistance aussi particulière pour les fiancés. Si vraiment on veut faire participer les fiancés, on dit c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé quand même. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment une dimension diocésaine,
oui,
une dimension spécifique pour les fiancés. Et puis, quand on est à Lourdes, on se sent chez soi, on peut aller dans différents lieux dans lesquels on a envie d'aller, on peut ramener aussi des choses pour des personnes que nous aimons bien. Et donc, que ce soit les enfants, les jeunes, les fiancés, les parents, les grands-parents, c'est vraiment cette journée que nous attendons et qui, après avoir eu dans chacun des pôles missionnaires du diocèse une fête à l'occasion du jubilé Terre d'Espérance, là, on se retrouve tous ensemble, ici
à Lourdes, et en famille.
Et voilà, en famille à Lourdes.
Voilà, et pour s'inscrire, hein, c'est maintenant, c'est dès à présent, ça se passe sur le site de votre diocèse, diocèse32.org, un site internet flambant neuf, magnifique,
oui,
très joli.
Il faut le signaler, chers amis auditeurs du GERS, mais peut-être plus largement, n'hésitez pas à aller voir le site qui a été vraiment remis, rénové, plus pratique, plus accessible, avec une très belle présentation, et c'est là que vous trouverez la manière de vous inscrire, en plus de toutes les affiches et de tous les tracts qui, en principe, sont déjà dans les paroisses avec le code pour se mettre en lien et pour s'inscrire.
Voilà, tout est sur le site, très joli site. Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand Lacombe. À bientôt dans les studios de Radio Présence.
Mais volontiers.
Vous êtes le bienvenu ici.
Bien volontiers, vraiment un bon, saint et, comme je le disais, joyeux carême à tous nos auditeurs.
Merci.
Au revoir, Anne-Rose.
Merci beaucoup à Monseigneur Lacombe, qui était interviewé par Anne-Rose Jankovic. Ben, on va rester dans le Gers tout de suite avec Pauline Cazier.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
La Confédération paysanne, le réseau des associations pour le développement de l'emploi agricole et rural et les amis de la Confédération paysanne organisent la 4e édition du Salon à la ferme. Cette opération a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en ouvrant les portes des fermes. La thématique nationale de cette 4e édition est la souveraineté alimentaire. Et dans le Gers, le Salon à la ferme se déroulera jusqu'au 7 mars dans 6 fermes. On écoute Sylvie Collas, porte-parole de la Confédération paysanne du Gers. Elle est au micro de Pauline Cazier.
Alors le Salon à la ferme, c'est sa 4e édition dans le Gers et aussi nationalement, puisque c'est une initiative nationale de la Confédération paysanne, parce que c'est bien pour les Parisiens, le Salon de l'agriculture, mais c'est quand même très parisien, très francilien. Et puis il y a tous ceux qui voudraient quand même voir des fermes, pas la ferme France, entre guillemets, exposée au Salon à Paris, porte de Versailles, mais bien ce qui se vit dans les fermes. Donc depuis 4 ans, nous ouvrons des fermes pendant la période du Salon de l'agriculture, et donc dans le Gers cette année, année, vous aurez 5 fermes qui peuvent accueillir le public, des fermes essentiellement d'élevage, de maraîchage, très diversifiées, souvent des collectifs, et qui en plus d'accueillir pour faire visiter et montrer leur travail, sont là aussi pour échanger, proposer aussi des moments de convivialité sur leur ferme, et bien sûr des bons produits.
Pour montrer que l'agriculture, ce sont des agriculteurs qui travaillent énormément, qui font des bons produits, et le Gers est gâté de ce côté-là.
Bien sûr, le Gers, l'agriculture, c'est sa première activité. Et pour autant, souvent, les citoyens, occitains, n'osent pas franchir la porte d'une ferme parce que c'est toujours de plus en plus délicat, de plus en plus cloisonné. Or là, justement, nous, on a dit, mais nous, on n'a rien à cacher. Nous, on est là pour montrer, pour discuter, pour expliquer comment on travaille, avec quoi on travaille et quelles sont aussi nos problématiques de revenus, de climat, d'excès de travail, de difficultés de mobiliser des jeunes pour s'installer en agriculture, de transmettre.
Là, il va y avoir la diffusion du film Soulèvement, qui est un film qui explique comment des citoyens se mobilisent pour la... au niveau politique, pour la biodiversité, pour...
Tout à fait. C'est-à-dire que dans notre projet d'agriculture paysanne, à la Confédération paysanne, nous sommes totalement conscients de la nécessité de travailler avec la nature et non pas contre la nature, de travailler avec l'environnement et non pas contre l'environnement. Et c'est pour ça que nous, dans notre projet paysan, effectivement, on veut protéger la biodiversité, on veut protéger les sols, avoir des sols vivants. On veut aussi le partage de l'eau pour que tout le monde ait accès à l'eau, mais on veut aussi donner aux consommateurs le meilleur pour eux, pour leur santé. Donc avec notamment une sortie des pesticides et non pas comme actuellement proposé par la loi du plomb, un engagement vers plus de pesticides en France. Donc effectivement, et puis bien sûr dans notre projet paysan, on a la question de la localisation. Donc vous imaginez un grand territoire gersois où pour autant un poulet sur deux va venir du monde, hein, pourquoi pas du Mercosur. C'est quand même une aberration alors qu'on est une terre de production de volailles et pour autant les enfants des cantines mangent très peu de volailles du Gers.
Alors suite à la projection du film, il va y avoir des débats, une table ronde. Qui sera présent pendant ces débats?
Alors pendant ces débats, il y aura Antoine Faure qui est installé sur la ferme des Mawawitz, qui est donc une ferme collective d'arboriculture, d'espèces, justement de biodiversité d'espèces arboricoles pour justement remettre l'arbre dans nos territoires, le fruit, puisque quasiment la production de fruits et légumes, c'est la production la plus déficitaire sur notre territoire et globalement en France. En fruits, c'est plus de la moitié de la production française qui est d'importation. Donc Antoine sera là aussi parce qu'il est jeune agriculteur, donc c'est pour montrer qu'il y a des jeunes qui s'engagent dans ce projet paysan. C'est pas une vieille histoire, au contraire, et qu'eux sont en train de construire un modèle aussi au travers de leur organisation collective pour s'affranchir un peu de l'excès de travail que ma génération, nous avons souvent dû subir, parce que les 70 heures, ben, ça ne correspond pas à la nouvelle génération, et ils ont raison, mais aussi montrer que c'est viable, qu'il y a du revenu, et qu'on peut être plus nombreux sur le même territoire, et produire plus de souveraineté alimentaire, alors que jusqu'à présent, depuis 40 ans, on n'a fait que voir disparaître le nombre d'agriculteurs sur notre territoire et en France globalement.
Est-ce que vous pouvez nous donner les dates de ce salon à la ferme qui se déroule en fin février et jusqu'au début mars?
Le salon à la ferme, c'est donc du 13 février, aujourd'hui le lancement jusqu'au 7 mars. Alors vous avez sur, bien sûr, les réseaux, vous pouvez trouver effectivement l'information sur le site aussi de la Confédération paysanne du Gers. Donc effectivement, il y a des fermes qui sont ouvertes, par exemple le domaine de Herbou qui est ouvert le samedi 28 février. C'est un domaine qui propose du vin bio, hein, qui est donc, ce sont des vigneronnes hein, qui produisent, travaillent la vigne et produisent leur vin, donc c'est pas rien. Le dimanche 22 février, c'est la ferme de Noé et Lila qui va être ouverte avec un banquet paysan qui est proposé en association avec les amis de la Confédération paysanne. Donc là, vous avez aussi un repas et c'est une ferme essentiellement autour du maraîchage. La ferme Canopée, c'est le dimanche 1er mars.
C'est à Sansan.
C'est à Sansan. C'est une ferme aussi avec de la traction animale. Donc c'est intéressant de voir comment on redonne du sens dans le travail aussi et que le machinisme n'a pas réglé tout, loin s'en faut. La ferme du Raguet, et qui sera ouverte aussi le 1er mars, c'est une ferme de polyculture élevage, mais essentiellement d'élevage chèvre-lait, porc plein air et bovin viande, donc en GAEC, donc une visite de l'atelier de porc, et bien sûr de la chèvrerie avec les biberons qui pourront être donnés aux petits chevreaux. Et puis la ferme de Bidouze qui ouvre aussi le dimanche 1er mars avec une visite guidée par les enfants, puisque c'est une ferme collective aussi, avec des enfants, des visites pour les enfants et par les enfants, un concert de musique aussi, parce que nous, on veut montrer que l'agriculture, c'est un lieu de vie joyeux, et que par opposition à tout ce qu'on a vécu, crash, dur, de violence, dans ces dernières manifestations, nous, on est pour concilier citoyens, consommateurs et paysans, parce que c'est ensemble qu'on fera l'alimentation de demain.
Donc on pourrait trouver tous les renseignements, toutes les dates sur le site de la Confédération Paysanne
du Gers, tout à fait, et même national, puisque le national donne une cartographie de l'ensemble des départements de France.
Voilà, à l'instant, vous avez pu entendre l'interview de Sylvie Collas, porte-parole de la Confédération Paysanne du Gers, qui était au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers. Elle nous parlait de la 4e édition du Salon à la ferme.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Et on continue avec l'information à la mi-journée. Pour cela, on retrouve Lou Denville, qui est étudiante à Blagnac, à l'école de journalisme. Bonjour Lou.
Moins d'un mois après la coupure de la RN20, un nouvel éboulement bloque le réseau routier ariégeois. Les intempéries frappent de nouveau l'Ariège. Cette fois, c'est la RD618 qui est touchée. Selon le département, la route départementale est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Lacour et Kerkabanac, à la suite d'un éboulement. L'incident survenu hier, soit dans la nuit ou la matinée, a entraîné la fermeture immédiate de cet axe routier stratégique pour la vallée. Des déviations ont été mises en place en attendant un retour à la normale. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter les conditions de circulation actualisées sur le site inforoute09.fr dédié à l'information routière en Ariège. Après des retards dans le creusement des tunnels, notamment au nord de Toulouse, le chantier de la ligne C du métro se poursuit. Tisséo Ingénierie a annoncé ce lundi 16 février que plus de 60% des tunnels et viaducs sont réalisés. Sur les 27 km prévus, environ 16 km d'infrastructures sont achevés. Le chantier bascule désormais dans le second œuvre. Les quatre stations aériennes ainsi que Bonnefoy et Lormeau sont déjà en phase d'aménagement. L'équipement du système de transport démarre également. Les premiers rails seront posés sur les ouvrages linéaires, notamment sur le viaduc. Côté matériel roulant, deux rames sont en essai à Valenciennes afin d'accumuler les kilomètres. Sous terre, quatre tunneliers poursuivent leur progression. À Argelès-Gazost, la nouvelle Maison du Souffle mise sur une approche pluridisciplinaire pour prévenir les pathologies respiratoires. Ouverte en novembre dernier, cet établissement est né de l'initiative du docteur Aimé Haddad, pneumologue récemment retraité. Spécialiste en pneumo-allergologie, il a établi un constat. Dans un contexte de pénurie médicale et de difficultés d'accès aux soins, il devient indispensable de prendre en charge les pathologies respiratoires en amont, avec un accompagnement préventif sans attendre qu'elles s'aggravent. Installée tout près du parc thermal, la Maison du Souffle propose ainsi aux personnes souffrant de problèmes respiratoires une approche pluridisciplinaire avec quatre intervenants, un maître nageur, une chanteuse, un praticien en hypnose et une professeure de yoga. Enfin, ce 18 février, jour du mercredi des cendres, nous entrons dans le temps de carême. Un temps de conversion intérieure où le chrétien, pendant 40 jours, par la pratique du jeûne, de la prière et de l'aumône, est appelé à revenir vers Dieu et à s'ouvrir aux autres. Dès 19h, vous pourrez retrouver sur les antennes de Radio Présence la messe présidée par l'abbé Antoine Lavial, curé de la paroisse étudiante de Toulouse, en direct de la basilique Notre-Dame de la Dorade.
Présence dans la cité mariale, 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Chaque semaine, on retrouve un duo célèbre maintenant, Philippe Noni, Diego Arabal, pour un jour, un livre, un auteur, et on alterne un petit peu les sujets. Et là, c'est vous, Diego Arabal. Donc, quand souvent c'est vous, Diego, quand c'est Diego, Philippe Noni, qu'est-ce qui se passe?
C'est la romance.
Non.
C'est les romans de rose. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Philippe.
Et donc Diego Rabal est le spécialiste de tout ce qui est policier, trailer, polar.
Voilà. Alors, effectivement, ça peut m'arriver de faire des entorses, mais aujourd'hui, je ne ferai pas d'entorse. Je reçois un auteur pour nous parler d'un polar. Cet auteur, c'est Serge Nicolo. Et il va nous parler de Boléro Tragique, qui est paru aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Bonjour Serge, comment allez-vous ?
Oui, bonjour, je vais très bien, et vous ?
Eh bien, en forme. Vous avez entendu dans notre petite présentation hors antenne c'était assez rigolo. Bon, ben, on est toujours comme ça, toujours dans la bonne humeur, parce que le monde va mal, mais il vaut mieux en rire. Alors, Serge, c'est la première fois que je vous reçois sur cette antenne, bien que vous ayez déjà publié plusieurs romans policiers, mais c'est la première fois que je vous reçois, et je vous reçois pour Boléro Tragique. Donc c'est aux éditions Arcane 17, c'est la collection Polar Rouge, et il y a une tradition sur cette antenne, lorsque je la prends, c'est de présenter le roman de l'auteur, et puis que l'auteur réagisse, et après on démarre l'interview autour du thème du roman.
D'accord, très bien.
Alors, 2016, le commandant Pierre-Paul, dit Pépé Négri, de l'OCBC, Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, enquête à Toulouse sur la disparition d'Alphonse Solomiac, un policier à la retraite. Pourquoi lui ? Ah ben parce qu'au domicile du disparu, on a trouvé un fragment d'un dessin original d'Henri Michaud. Le dossier administratif du disparu montre qu'il a trempé dans le passé dans des affaires politiques peu reluisantes. La rencontre de Lolita, Núñez Lorca, une vieille femme réfugiée politique ayant fui le franquisme, va lui apporter une aide inespérée à travers des cahiers où elle a, durant des décennies, mené une enquête sur les agissements de certains policiers d'extrême droite. La disparition d'un second policier faisant partie du groupe sur lequel enquêtait l'octogénaire va amener Pepe Negri à s'intéresser à l'opération Boléro Paprika menée par la police française au début des années 50 à l'encontre de militants antifascistes et au sort d'une princesse hongroise, Marie Elina Kovács. Serge Nicolo nous emmène dans un voyage temporel entre les années 50 et aujourd'hui, dévoilant à travers des chapitres courts et rythmés une histoire largement oubliée aujourd'hui où l'État français, pour calmer les obsessions de nos alliés américains et les craintes du dictateur Franco, n'avait pas hésité à extrader ou à mettre en résidence surveillée des étrangers, espagnols, allemands, apatrides, tchèques, hongrois, etc., qui avaient vaillamment participé à la résistance et à la chute du nazisme. L'auteur fait avancer l'enquête d'une plume alerte, allant à l'essentiel. Le livre est court, percutant. Un beau moment de lecture qui confronte aux petites lâchetés de nos gouvernants, mais aussi à l'infatigable patience des gens de l'ombre qui s'attellent à conserver la mémoire. Boléro Tragique, Serge Nicolo, édition Arcane 17. Alors, vous abordez dans ce roman un épisode pas très reluisant de la police française, qui est l'opération Boléro Paprika. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous intéresser à cette opération et à la faire sortir un peu de l'ombre ?
J'ai entendu parler de cette affaire il y a quelques années, et notamment de ce nom de code que la police avait donné à l'opération. Et c'était assez intriguant, ce code Boléro Paprika. Alors, c'était pour signifier qu'il y avait une partie de personnes d'origine espagnole, donc qui
le était désignée
par le terme boléro, et puis d'autres originaires des pays de l'Est, donc Hongrie, Pologne, et qui étaient désignés par le terme paprika. Donc ça avait attiré mon attention, et puis quand j'en parlais autour de moi, je me suis rendu compte que personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que lors de cette opération de police, il y a eu donc 288 personnes arrêtées sur le territoire national, 177 espagnols, et puis aussi, il y a eu plusieurs structures liées aux républicains espagnols qui ont été démantelées, qui ont été rendues illégales, et notamment l'Amicale des guérilleros de l'hôpital Varsovie à Toulouse, et donc qui est un lieu quand même emblématique de la ville de Toulouse, un lieu auquel tous les Toulousains sont attachés, parce que c'est un hôpital qui est toujours en activité, et un hôpital en plein centre-ville, et qui offre des soins à tous les Toulousains, et donc qui était administré par une amicale d'anciens guérilleros. Et donc la police a rendu cette organisation illégale, et l'hôpital est passé sous une autre administration, et c'est le professeur du coin qui en a pris la direction. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant, lié à l'histoire de notre ville, et puis il y avait un côté aussi un peu romanesque aussi, de par le titre de cette opération de police, de par son nom. Et aussi, en creusant un peu, j'ai découvert aussi des personnages assez, et des situations assez incroyables, quoi. Donc voilà, comment démarrer l'histoire.
Alors, l'histoire que vous écrivez s'appuie aussi, même si ce n'est pas des biographies, s'appuie quand même sur quelques personnages réels. Qui émaille votre roman, et qui à l'époque, par exemple en 1953, la Dépêche du Midi fait état d'une macabre découverte à Saint-Lys. Un cadavre en labourant ses terres, c'est un terrain isolé. Sa charrue a ramené à la surface une caisse d'un bois, à l'intérieur les restes d'un cadavre décomposé. Et donc, vous construisez quelque chose autour de cette exhumation tout à fait fortuite. Et donc, c'est quand même, vous vous basez sur des éléments réels. C'est-à-dire que c'est à la fois une fiction, mais comme beaucoup de bonnes fictions, elle s'ancre dans la réalité.
Oui et non. Parce que effectivement, il y a eu une affaire de cette sorte. Le corps d'une femme qui a été déterrée effectivement dans un champ agricole, mais c'est pas du tout mon personnage, quoi. En fait, je me suis inspiré de ce fait divers pour créer un meurtre qui y ressemble, parce qu'effectivement, en faisant des recherches dans les journaux de l'époque sur justement l'arrestation de police, les arrestations de l'affaire Bolero Paprika, j'ai trouvé d'autres articles, et notamment ce fait divers qui avait vraiment un peu été un feuilleton, qui avait un peu bouleversé la Haute-Garonne dans ces années-là. Et effectivement, il y avait eu plein de spéculations là-dessus, sur ce corps de femme retrouvé enterré.
D'accord.
Ouais, mais ça part. Voilà, moi, mon histoire est quand même un roman avec des personnages tout à fait fictifs.
D'accord. Même les personnages historiques. D'accord. Ouais.
Les personnages historiques, j'en cite pas énormément. Les faits sont exacts. L'opération de police qui s'est déroulée en une nuit, c'est exact. En fait, c'était ni plus ni moins qu'une rafle, puisque les policiers avaient des listes, et en une nuit, ils ont arrêté toutes ces personnes, et puis ils les ont expulsés du territoire métropolitain. Voilà.
Alors, il y en a certains parmi ces personnes qui se sont retrouvés en Algérie, pour les mieux lotis, et puis d'autres qui se sont retrouvés dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Ce qui, pour certains, a été difficile pour pouvoir revenir, parce que, des gens ont été enlevés. Alors, je ne sais plus s'il y avait des enfants, si c'était les familles entières, mais je sais, j'ai rencontré un jour une personne qui, enfant, était partie avec ses parents, qui avaient été en Tchécoslovaquie, puis ils étaient revenus quelques années plus tard. Mais c'est quand même assez sidérant de voir cela, quoi.
Oui, la majorité ont été expulsés du territoire, donc certains en Corse, en Algérie, vous l'avez dit, en Andorre aussi. Mais on leur posait la question, notamment aux personnes qui étaient originaires des pays de l'Est, s'ils voulaient retourner de l'autre côté de ce qu'on appelait le rideau de fer. Et donc certains ont choisi cette option. Voilà. Et effectivement, ils ont certains ne sont jamais revenus et d'autres ont mis beaucoup de temps à revenir. Il faut dire que, en fait, la justice n'est jamais revenue sur cette décision, quoi. Donc, en fait, certains sont revenus quand ils ont jugé qu'ils risquaient plus rien et que plus personne parlait de cette histoire. Mais voilà.
En fait, c'est une simple opération de police, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base juridique, mis à part le décret signé ou l'arrêté signé par le ministre de l'Intérieur. Il n'y a aucune base juridique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont en obligation de quitter le territoire national pour des raisons de justice, mais qui sont simplement raflés et que l'on met en rétention et que on envoie dans d'autres pays.
Oui, voilà. En fait, il n'y a pas de justification. En fait, l'argument, c'est que ces personnes auraient pu éventuellement représenter une cinquième colonne dans le cas. On est en pleine guerre froide, faut pas oublier.
Oui,
ça,
oui, oui, 53.
On est
oui.
en pleine guerre de Corée.
On est en pleine guerre de Corée.
Début de la guerre d'Indochine. Les États-Unis, on est en pleine application du plan Marshall, donc l'aide financière aux pays européens, à ceux qui l'acceptent. C'était une proposition, la France a accepté parmi d'autres pays. Et donc les Américains demandent un peu une sorte de contrepartie et sont dans cette option politique ou stratégie politique de l'endiguement. Et donc, on va soutenir les dictatures des colonels en Grèce, de Franco et de Salazar en Espagne et au Portugal, parce qu'on pense que c'est un moindre mal et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des pays qui soient influencés par les idées soviétiques. Donc voilà, on est dans cette vision du monde-là. Mmh. Et effectivement, le gouvernement français dit, mais nous aussi, on va apporter notre soutien à cette stratégie en arrêtant ceux qui pourraient éventuellement présenter un danger. Oui. Alors, c'était souvent infondé, parce que souvent, les personnes qui ont été arrêtées n'avaient plus d'activité clandestine, n'étaient pas armées, n'étaient pas dans des réseaux pour la plupart. Et donc, c'était une bonne action, que présentait le gouvernement vis-à-vis de Franco et des États-Unis aussi.
Oui, parce que la plupart des gens qui ont été raflés étaient des réfugiés politiques, hein, que ce soit d'ailleurs les personnes qui venaient des pays de l'Est comme ceux qui venaient d'Espagne, qui avaient participé à la lutte anti-nazis sur le territoire français, qui avait fait partie de la résistance, hein, pour beaucoup d'entre eux, et qui, en tant que réfugiés politiques, après la Seconde Guerre mondiale, se retrouvaient avec cette injonction classique de tout réfugié politique, c'est d'abandonner des activités qui pourraient nuire au pays d'accueil. Et donc, ces personnes qui étaient en réfugiés politiques donc, avaient cessé toute activité. Alors, peut-être pas d'activité politique officielle, mais en tout cas, toute activité qui serait de l'ordre de la reprise des armes contre Franco, par exemple, ou contre Salazar en France. Je veux dire que l'opération qui avait échoué et qui a été lamentablement trahie pour le Val d'Aran, c'était quand même en 47, quoi. Donc c'est bien avant.
Oui, oui.
Bon, dans le contexte 53, c'est aussi
1950 l'opération Bolero Paprika.
Oui, Bolero Paprika, c'est en 50. Donc 50, l'URSS vient de faire sauter sa première bombe nucléaire 5 ans après les États-Unis. On est dans une période de tension internationale qui est assez forte, puisque tout d'un coup il n'y a plus l'hégémonie, et donc il y a cette crainte là mais elle est infondée par rapport à des gens qui se sont battus pour la France, quoi, hein, et pour la liberté en France.
C'est ça qui est bien de rappeler aussi. Mmh. C'était souvent d'anciens résistants, certains avaient eu la Légion d'honneur. Mmh. C'est d'autant plus choquant, révoltant de la façon dont la République les a traités.
Tout à fait.
Après, effectivement, comme je disais, j'ai lu aux archives, les journaux de l'époque, et c'était une période vraiment effrayante, parce que on parlait de guerre froide, mais la guerre froide était assez chaude quand même, parce que comme il y avait la guerre de Corée, et c'était vraiment les deux blocs qui s'affrontaient directement. Mmh. Au travers de la Corée, mais donc c'était quand même, je pense, assez anxiogène et assez une période assez dangereuse. Mmh. Voilà. Après, moi, pour conclure là-dessus, je voulais dire que quand même, j'ai pas fait un livre d'historien, j'ai pas fait non plus un essai politique ou géopolitique. C'est un roman policier. Je voulais parler de ça et effectivement donner envie au lecteur de connaître cette période et peut-être pourquoi pas d'approfondir là-dessus. Mm-hmm. Mais moi en fait j'ai utilisé le biais du roman policier en essayant de me divertir aussi d'essayer de divertir les lecteurs
par de vous faire plaisir
par de parler de choses sérieuses mais sur un ton pas forcément sérieux oui mais disons un peu allégé par une enquête par des personnages aussi et des situations voilà.
Mmh. Est-ce que on va retrouver Pepe Negri dans d'autres aventures?
Oui, pourquoi pas. Alors effectivement moi j'ai voulu faire ce personnage de policier qui est un peu
atypique.
Oui, bon, alors ça, c'est pas nouveau, les policiers qui sont atypiques.
Généralement, c'est le cadre des policiers de romans.
De romans, oui. Les romanciers aiment bien faire des policiers qui sont pas vraiment policiers. Mais du coup, moi, comme je travaille dans des musées et ce milieu-là est un milieu que je connais un petit peu. Et donc, j'ai voulu créer un personnage de policier qui travaille dans la police qui
s'occupe des
centrales contre les trafics des biens culturels. Mmh. Et donc cet organisme de police est situé à Paris, donc moi
vous l'avez décentralisé, voilà
j'ai
des antennes,
j'ai un peu pris cette liberté. Et donc, il est censé enquêter uniquement sur les affaires concernant l'art ou la contrefaçon, mmh. qui est quand même un secteur criminel assez important.
Oui, c'est le deuxième secteur criminel derrière le trafic de drogue et d'êtres
drogue
humains.
Et les armes, ouais. Et donc, oui, c'est des faux ces œuvres d'art, des trafics, des vols, trafic d'archéologie, oui. Etc. Il y en a énormément, donc ce sujet m'intéressait, ça me permettait de faire un personnage qui est pas forcément impliqué dans d'autres affaires de police courantes.
Mmh. Et vous allez creuser cette piste en lui faisant retrouver d'autres, un peu dans le sens du policier, c'est Argyle qui est un policier chargé de rechercher les œuvres d'art à Florence. Donc je me souviens plus du nom de l'auteur. J'ai un trou de mémoire là sur le nom de l'auteur. C'est Ian Rankin.
Je ne me rappelle plus. Oui, mais ouais. Ça me dit quelque chose.
Oui, oui. Donc c'est un policier qui est justement dans un office de lutte contre le trafic d'œuvres d'art. C'est un policier anglais et qui travaille à Florence, ouais. Où effectivement, vu le nombre de musées et la densité d'œuvres qu'il y a sur place, il y a une délégation donc qui travaille souvent aussi avec une collègue. Ouais. qui, elle, est une historienne de l'art.
Oui, surtout que l'Italie est le pays qui a sans doute été le plus pillé au monde, mmh. parce qu'il y a des trésors archéologiques, il suffit de creuser un trou dans son jardin pour trouver quelque chose.
Tout à fait. Tout à fait.
Et donc, ces objets, souvent, ont quitté le territoire illégalement. Quoi.
Ouais.
L'actualité nous a un peu rattrapé puisqu'avec l'histoire qui s'est passée au Louvre
oui.
Jusqu'à présent quand on me questionnait là-dessus je disais les vols dans les musées sont très rares. Effectivement ils sont très rares parce que c'est très compliqué après de revendre des objets qui sont inventoriés et en général les vols dans les musées sont très rares et il se trouve que enfin l'année précédente, il y a, en dehors du Louvre, il y a eu plusieurs vols importants en France dans les musées. Et c'est assez inquiétant. Et voilà, souvent la réalité rattrape la fiction.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que les vols dans les musées étant rares, il est tentant de lever un peu le pied sur la sécurité. Puisque, bah, je veux dire, comme c'est rare, on se dit il y a moins de risques, donc on peut lever le pied sur la sécurité, et puis il suffit que, eh ben, il y ait deux ou trois vols comme ça. Mais en règle générale, je pense que beaucoup de ces vols, notamment celui qui a eu lieu au musée du Louvre, il n'y a pas de reseller, c'est-à-dire que ça part directement chez quelqu'un qui l'a commandité, vous ne pensez pas ?
Oui, c'est ce que beaucoup de personnes disent, que c'est possiblement une commande. Je sais pas. Après, tout ça est. Bah, après, ce vol-là aussi vous interpelle parce que les objets volés sont quand même assez fabuleux. La façon, le mode opératoire est assez aussi rocambolesque. Donc, en fait, personne ne s'attendait à un vol comme ça, quoi, parce que souvent quand même les vols ont lieu la nuit. Et puis voilà, de façon plus discrète quand même. Là, c'était vraiment
en plein jour.
À la vue de tout le monde, donc c'est assez incroyable. Après, pour revenir sur la sécurité des musées, je pense pas que la sécurité des musées était relâchée. Alors peut-être que là, enfin moi je veux pas parler là-dessus, mais quand même, la sécurité des musées n'est pas relâchée, et c'est quand même très sérieux, et dans l'ensemble, tout le monde prend ses missions très au sérieux. Donc, voilà, on peut être très bien préparé et
néanmoins se laisser déborder.
Enfin, oui, voilà. Enfin, tout le monde sait ça, et on peut même mettre une alarme dans sa maison ou les meilleures serrures. Si un voleur veut rentrer, il va rentrer de toute façon.
De toute façon, oui.
Donc voilà. Et effectivement, ce qui faisait qu'il y avait moins de vols, comme je le répète, c'était que ces objets sont souvent très connus, très inventoriés. Et donc c'est difficile de passer après entre les mailles, quoi. Parce qu'il y a des experts partout, il y a les polices d'Interpol, etc., qui vont de suite repérer un objet qui appartient à un musée, quoi.
Ah oui. Et bon, pour les bijoux, il est toujours possible de les démonter, mais ça demande aussi après un retravail sur les joyaux, etc.,
oui,
qu'ils soient pas reconnus. Enfin bon, je veux dire que l'investissement technique à mettre dedans fait que, ben, en plus, c'est pas dit qu'on puisse les vendre au prix qu'on voudrait, quoi.
Oui, bien sûr, après tout est possible, mais c'est surtout, parffois prendre beaucoup de risques pour peut-être avoir des gains assez dérisoires, mais bon, tout est possible, comme par exemple l'augmentation du prix de l'or au niveau mondial. Ça peut aussi donner des idées
pour fondre
des bijoux dans une bijouterie ou n'importe où ailleurs, de le fondre, quoi. Parce qu'effectivement le prix des minéraux minerais ont augmenté, de l'or en particulier, donc
Oui, tous les métaux, d'ailleurs l'or, l'argent, mais le cuivre aussi, la preuve. Les quantités de cuivre qui sont volées aujourd'hui sont assez phénoménales, et ça, c'est un phénomène assez récent. Ça fait quoi, 10 ans que ça arrive, avec effectivement l'envolée des cours des métaux précieux ou pas, mais des métaux stratégiques, dirons-nous.
Ouais.
Un projet en cours ou vous faites une relâche?
Oui, après je suis sur un projet, oui. Après j'aime pas trop en parler, mais oui, je peux en parler. C'est sur un roman qui se déroule dans les Pyrénées plutôt, et notamment lié justement au capital minier des Pyrénées. Il y avait encore beaucoup de mines, de petites mines dans la chaîne des Pyrénées qui ont été exploitées, qui ont été abandonnées parce que
elles étaient plus rentables,
il y avait peu de résultats, et puis c'était souvent en altitude, donc ça coûtait plus cher que ça rapportait, mais l'idée c'était de peut-être dire avec l'augmentation des cours mondiaux d'envisager la réouverture d'une mine dans les Pyrénées, et alors avec tout ce que ça peut engendrer de conflits avec les populations, avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, parce qu'effectivement ouvrir une mine c'est très polluant,
on tout
le
à fait.
Et c'est une pollution qui après met des siècles à disparaître, donc voilà.
Ouais.
Voilà, je me lance un peu sur des recherches là-dessus et voilà.
C'est super de voir que vous avez des projets, puis j'espère que quand il sera paru, vous nous ferez signe et on se fera un plaisir de vous recevoir sur cette antenne pour parler de ce nouveau roman. Donc pour l'instant, on parle de celui qui vient de sortir, qui s'appelle Boléro.
Présence à Millau, 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape a entamé un nouveau cycle de catéchèse ce matin lors de l'audience générale.